Merci d'être si nombreux à cette table ronde.
Ça fait chaud au cœur.
Rencontre merci. Avec Gwen de Bonneval. Donc, présentons Gwen un peu. Bon, évidemment, un petit bac L, parce que bon, c'est toujours bien, ça fait plaisir aux parents. Des études de graphisme, de com. Et puis, il travaille dans un premier temps pour la presse, l'édition jeunesse, ainsi que la communication. En 98, il rentre au fameux atelier des Vosges et se consacre plus assidûment à la BD. Avec, comment dire, il monte aussi l'atelier du coin avec quelques amis, dont Mathieu Bonhomme, Stéphane Wary et Hubert. Il dessine Monsieur Forme, scénariste Gilles Gamèche, Messire Guillaume, et ainsi de suite. Ce qui est important de se rappeler, c'est que Les Derniers Jours d'un Immortel a le prix du meilleur album de science-fiction Utopia 2010. Album réalisé avec Fabien Velman, et il collabore aussi sur le professeur Cyclope en compagnie de Bruno, Cyril Pedrosa, Hervé Tancrel et toujours Fabien Velman. À l'heure actuelle, je pense que tu dois avoir 15 BD à peu près scénarisées.
Peut-être une vingtaine, 25, je ne sais même plus, je ne compte pas trop, mais je crois que c'est plus que 15. Ouais.
Quelles ont été tes principales influences? Et je pose la question pour une raison simple, c'est que une des caractéristiques du travail de Gwen, c'est qu'il est finalement très multifacette. Il y a des genres différents qui sont abordés, des époques, des styles de récit, même s'il y a quand même une ligne conductrice dont on parlera plus tard. Mais du coup, quelles ont été les influences? Parce qu'il doit y en avoir plus d'une.
Oui, en fait, j'ai lu beaucoup de bandes dessinées quand j'étais petit. Pas uniquement des bandes dessinées, mais j'aimais la lecture. Ce qui fait que souvent on oppose la lecture avec et sans images. Et je pense que quand on aime lire, on peut lire un peu de tout. Et avec un peu de recul, je me suis rendu compte que j'avais engouffré énormément d'images, de livres, de bandes dessinées, sans même savoir lire au départ. Mes premiers souvenirs, c'est Pépito de Botaro, où je sais que ma sœur avait un illustré comme ça. Je ne savais pas lire, je le prenais dans tous les sens. Mais ça racontait quelque chose. La bande dessinée, elle a cette capacité, surtout des auteurs comme Botaro, avec quelques images, à faire entrer dans un univers sans qu'il y ait forcément besoin de savoir lire. Et du coup, il y a eu des illustrés quand j'étais gamin, vraiment, et puis aussi un peu plus tard, des revues, Spirou, Tintin, Pif, ça a été important. Je lisais beaucoup de choses qui venaient parfois dans les supermarchés, les trucs de seconde zone, de seconde main, où on pouvait acheter pour pas cher plein de bandes dessinées. Et du coup, j'ai lu beaucoup de Rahan sans les gadgets. Alors j'étais frustré. De temps en temps, j'achetais le Rahan avec le gadget, mais voilà, c'était moins cher.
C'est important d'avoir le collier en dents de tigre de sabre. Ou de...
Voilà, j'ai quand même eu le coutelard, donc c'est important. Je lisais aussi beaucoup le journal de Mickey, etc. Donc alors il y avait Picsou d'un côté et Pif de l'autre, donc il y avait une sorte de guerre des récits, parce que finalement on me disait derrière, mais il y a un journal qui est de droite et l'autre qui est de gauche, et moi je lisais de la BD, je comprenais pas trop.
Ouais, c'est pareil, j'ai lu Pif pendant des années, ainsi que le journal de Mickey, j'ai jamais compris qu'on me dise ça quand j'étais môme. C'est pareil.
Et puis voilà, alors du coup j'ai lu beaucoup de choses, notamment les recueils aussi de mon père de pilote, donc ce qui m'a ouvert à d'autres formes de bande dessinée, parce que c'est vrai qu'il y avait énormément de graphisme et de... Enfin, Goscinny était ouvert à beaucoup de... On en parlait tout à l'heure, à beaucoup d'auteurs et de graphismes différents, d'univers différents. Et il y a des parcours comme ceux de Goscinny ou ceux de Greg qui m'ont marqué par leur capacité à embrasser le monde de la bande dessinée sous toutes ses formes. C'était des auteurs, dessinateurs, scénaristes. Goscinny a abandonné le dessin, mais il a gardé quand même un goût très fort pour celui-ci. Et puis le fait d'avoir commencé à dessiner, je pense que ça a influencé sa carrière de scénariste et sa manière d'écrire. Et je pense que c'était aussi un lien avec, avec mon père que je ne voyais pas souvent, parce que mes parents étaient divorcés. Et quand je l'ai revu, qu'on habitait la même ville, il avait énormément de bandes dessinées. Et je me souviens avoir pris toutes ces bandes dessinées et avoir fait des piles par auteur, mais aussi, à un moment donné, par maison d'édition. Et je me disais, ah oui, alors, c'est marrant qu'il y ait ce nom-là d'Argo qui revient tout le temps, quel type de bande dessinée ils font, etc. Et donc, je crois que j'avais un goût pour la façon dont on faisait de la bande dessinée, que ce soit comme auteur, comme éditeur, comme scénariste. Comme, voilà.
À quel âge, ça ?
J'avais 12 ans, je pense, ouais. Une douzaine d'années. Et du coup, à ce moment-là, j'ai aussi rencontré un ami de ma sœur qui m'a fait découvrir Moebius, les Humanos, et je me suis rendu compte qu'Achille Talon, c'était super, mais que en début d'adolescence, découvrir les Humanos, c'était pas mal non plus.
Concernant la science-fiction et l'imaginaire, quelle était l'intention de départ avec Fabien Velman pour Les derniers jours d'un immortel? Parce que c'est un album qui est quand même assez atypique.
Alors en fait, avec Fabien, on avait travaillé sur une série qui s'appelait Samedi et Dimanche, qui était chez Dargaud, dans la collection Poisson Pilote. Et c'était nos débuts de carrière. C'est-à-dire que lui commençait dans Spirou à faire Green Manor. Et puis je crois que son premier album même signé pour être un album, c'était Samedi et Dimanche, même s'il est sorti après. Et dans Samedi et Dimanche, on a exploré... c'était à la fois pour la jeunesse et pour les adultes. Et il y avait un monde un peu philosophique sur un îlot. Et on se disait, bah, tel... je vais revenir au dernier jour d'un immortel, hein, c'est un rapport. tel sujet dont on a envie de parler, comment il serait abordé dans le monde de l'îlot? Par quel biais? Comment ça peut être traduit de manière à ce que ça puisse créer une petite faille poétique ou humoristique. Et il se trouve qu'après avoir fait 4 albums de Samedi et Dimanche, on s'est dit qu'on avait envie d'aborder les choses directement pour les adultes, mais on a recréé ce petit décalage qu'on avait commencé à faire avec Samedi et Dimanche, mais là dans un langage de science-fiction, parce qu'il y a des sujets dont on voulait parler. Ce que c'est qu'être humain, finalement, qu'est-ce qui nous séparait d'autres espèces potentielles, la difficulté même de se parler entre humains. On a l'impression parfois qu'on se ressemble, parce qu'on se ressemble beaucoup, que l'autre est très proche de soi et va être identique à soi. Et parfois, on a des différences énormes alors qu'on croit être très proche des autres. Et la thématique pouvait être abordée par le biais de rencontres d'espèces terrestres avec des espèces extraterrestres ou des espèces extraterrestres entre elles. Et du coup, on a inventé un personnage qui fait partie de la police philosophique qui s'appelle Elijah et qui, lui, est une superstar dans son domaine où il est capable, finalement, de créer des ponts et de comprendre les civilisations extraterrestres les unes avec les autres. Et quand il y a un conflit majeur et qu'on ne sait pas comment s'en sortir, on fait appel à lui. Donc c'était ce sujet-là qui nous intéressait. Aussi, toute la thématique de l'immortalité, le fait de... Si demain on peut vivre... si demain on peut être immortel, est-ce que ce n'est pas une condamnation aussi?
Alors, c'est un des problèmes, c'est que être immortel, c'est pas seulement ne pas mourir, c'est que c'est vieillir et ajouter du temps aux souvenirs jusqu'à les oublier, donc voilà. Perdre son intégrité.
C'est ça, c'est-à-dire que dans le monde qu'on a créé, pour continuer d'exister, il y a une perte de mémoire et une perte de l'identité. Cette perte de mémoire, cette perte d'identité, elle est accentuée si on se duplique aussi. C'est parce que c'est un monde dans lequel on peut avoir des clones. Et puis parfois ils fusionnent et ils ont la même mémoire. Et du coup une identité proche. Et donc quand il y a une superstar comme Elijah, c'est intéressant de multiplier les clones parce qu'ils vont vivre des choses différentes. Et puis leur intelligence et leur vécu, en donné, s'ils fusionnent, bah, ça va leur faire perdre de la mémoire, mais ça va les aider aussi à résoudre un problème majeur auquel ils sont confrontés.
Le choix du graphisme, d'ailleurs, et de la mise en page, et du nombre de planches pour cet album, est-ce que c'est une volonté? Parce que c'est un album qui, de prime abord, semble extrêmement... donne une distance, il est froid, ouais. On rentre dedans facilement, hein, c'est pas la question, mais il n'y a pas de chaleur dans les personnages, dans les décors, ça c'était calculé?
En fait, on voulait, oui, on a pensé à créer un petit malaise parce que l'être humain dans quelques siècles, on imaginait qu'il serait pas le même que nous, et donc il fallait que graphiquement ça se ressente. Si qu'on sache immédiatement qu'à la fois c'était des êtres humains et qu'à la fois il y avait une petite bizarrerie. C'est-à-dire que les êtres humains de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, s'ils nous rencontraient aujourd'hui, ils seraient extrêmement choqués. Et donc on voulait essayer à notre petit niveau de créer ce petit choc, ce petit malaise dans l'autre sens. Voilà. Et les purs étaient importantes pour montrer que le sujet n'était pas de dire... d'expliquer quelle technologie allait exister, mais simplement ce qu'on était capable de vivre dans l'environnement dans lequel on était dans le futur était important, mais ça servait à rien de le prendre sous un angle technologique, d'expliquer comment les choses allaient fonctionner. C'était pas le propos, c'était pas le sujet.
C'est clairement pas de la hard science.
Non, pas du tout.
En fait, c'est un propos philosophique. Et la science-fiction est un peu à la manière d'un conte philosophique, est un prétexte pour parler d'une problématique spécifique.
Oui, voilà, c'est plutôt ça. Mais la science-fiction, elle est capable de créer ce genre de décalage. Parce qu'on peut imaginer se projeter dans l'avenir. Quand on est on peut être dans un monde complètement... imaginaire, fantastique, etc. Mais on trouvait intéressant de prendre des problématiques actuelles et puis de les projeter et d'avoir ce léger décalage et le recul qu'on a quand on fait un peu de philosophie. Mais la philosophie, ça peut aussi être un peu repoussoir pour pas mal de personnes et à commencer par nous-mêmes d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on est Les sujets nous intéressent, mais la manière d'amener ces sujets et de les habiter, c'est important aussi. La philosophie n'est pas incompatible avec le genre. Et au contraire, elle peut permettre justement de créer un décalage qui est intéressant. Même s'il paraît un petit peu froid au départ, on a tenu à ça. Mais c'est vrai qu'il y a des... Il y a des gens qui ont trouvé ça un petit peu étrange et qui sont certains se sont accrochés et nous ont dit merci finalement je m'attendais pas à ça d'autres ça leur a un peu tombé des mains, d'autres ont aimé tout de suite, mais en tout cas c'est un livre qui continue d'être publié, qui a pas eu des grosses ventes d'un coup, mais qui se vend régulièrement, qui a été traduit dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis où il a eu un très bon accueil aussi. Donc c'est plaisir de faire des livres qui sont là sur la durée en fait. Et là on se dit bon, on a peut-être touché un petit quelque chose.
Oui. Passons à quelque chose de tout à fait autre, de l'adaptation. L'idée de faire revivre les récits de Georges Riel avec Hervé Tancrel au dessin pour la série des racontars. Alors je replace juste dans le contexte, il y a toute une série de romans qui ont assez loufoque et d'un humour noir un peu pince sans rire qui ont été édités, mais ils ne sont pas forcément très bien connus en France. Et d'où vient l'idée de les adapter? Enfin, ils sont connus, mais ce n'est pas, on pense pas immédiatement à cette série ou à cet auteur. D'où est venue l'idée de les adapter en BD? Ou en tout cas de travailler sur le thème des racontars.
En fait, c'est sûr que Jan Riel, c'est pas quelqu'un qui aime... c'est quelqu'un qui est assez discret. Il n'est pas... c'est pas pour rien qu'il a habité 15 ou 20 ans dans le nord-est du Groenland. C'est pas quelqu'un qui aime être sous les feux du projecteur. Et voilà. Mais en revanche, il a des lecteurs très fidèles qui s'agrègent Et en fait, il a de les racontars, quand on connaît, on a envie de continuer de tous les lire et puis de les offrir à Noël, pour les anniversaires. Il se passe, il y a quelque chose de il y a une grande fidélité à l'œuvre de Jan Riel pour ses lecteurs. Du coup, effectivement, enfin, c'est pour ça, je serais curieux de connaître exactement les ventes, mais ça marche bien quand même. Hein, c'est moi, on me l'a offert justement, je pense, pour un de mes anniversaires. C'est une dessinatrice, une amie dessinatrice qui me l'a offert. Puis quelques années après, quand j'ai travaillé pour Sarbacane comme éditeur, Sarbacane connaissait l'œuvre de Jan Riel, avait commencé même à adapter des choses et travailler avec l'éditeur Gaïa, qui est l'éditeur qui publie tout ce que fait Jan Riel et qui a même été créé pour Jan Riel. C'est-à-dire que Susan Yule, l'éditrice, au départ, elle a essayé de faire connaître Jan Riel en France en le proposant à des éditeurs qui n'en ont pas voulu. Et elle s'est dit, mais c'est pas possible qu'il ne soit pas connu, pas publié en France. Et ça lui a donné envie de monter une maison d'édition construite autour de Jan Riel. Et elle n'a pas regretté depuis, parce que ça a bien marché, et puis qu'ils ont publié des tas de choses formidables derrière, en dehors de Jan Riel. Et donc, tout ça pour dire qu'il y avait déjà un goût pour Jan Riel chez Sarbacane. Et de l'autre côté, ça faisait longtemps qu'on voulait travailler, Hervé Tancrel et moi, ensemble. Et je lui ai fait lire les racontars, qu'il ne connaissait pas. Les premiers récits de la Vierge froide et autres racontars, les deux trois premières nouvelles, il s'est demandé où ça menait, si on pouvait faire ça en bande dessinée. Puis après, il était complètement piégé par le truc. Il a imaginé les personnages, il était dedans complètement, et il était incapable d'en sortir. Et moi, c'est pas pour rien que j'ai proposé ça, parce qu'en fait, les racontars, pour situer un peu, sont des trappeurs qui vivent dans les années 50 dans le nord-est du Groenland. C'est des conditions extrêmement difficiles et il faut avoir une personnalité très particulière, très endurante, très résiliente pour pouvoir vivre dans ces conditions-là. Et dans ces récits-là, il y a à la fois une grande intimité parce que ces trappeurs vivent dans quelques mètres carrés dans une cabane à 2, 3 ou 4 quand c'est un tout petit peu plus grand. C'est très rare. Et de l'autre côté, quand ils sortent, c'est un désert, c'est une immensité extraordinaire. Donc il y a et puis une nature hostile. Donc il y a un contraste très fort entre la chaleur et l'intimité. Enfin la chaleur est relative, mais la chaleur qu'ils doivent se recréer justement pour survivre. Et puis l'hostilité extérieure. Et donc quand on est dans une cabane entre trappeurs et qu'on peut difficilement sortir à certaines périodes. Et bien, on se raconte des histoires. Et ils vivent aussi énormément de choses, les trappeurs. Et donc, ces histoires-là, Jan Riel les définit comme racontard, c'est une histoire vraie qui pourrait passer pour un mensonge, à moins que ce ne soit l'inverse. Et effectivement, ce qui est important, c'est la crédibilité du récit et la manière de le raconter. Et c'est-à-dire qu'il le raconte très bien lui-même, Jan Riel, dans ses nouvelles. C'est quelqu'un lance une piste d'histoire et puissant, si en face ça prend un petit peu, si c'est crédible ce qu'il raconte, et puis il continue. Et il y a un moment donné, s'il se rend compte que ce qu'il a vécu, et même s'il a vraiment vécu, si c'est trop extraordinaire, et qu'il ne va pas trouver l'angle pour le raconter et que ce soit réaliste, d'une certaine manière, ou crédible en tout cas, pas réaliste, mais crédible, aux yeux de son interlocuteur, ou plutôt à ses oreilles, il va peut-être lâcher l'affaire, ou même il va s'auto-censurer en disant, il y a une histoire comme ça, où le type est coincé par un ours dans une cabane et il ne peut plus sortir, et voilà. Et là, il se dit, si je raconte ça, je vais passer pour un branque, personne ne va me croire. Donc il a vraiment vécu, mais il dit, en fait, elle n'est pas racontable, je vais pas la raconter. Et puis il y en a d'autres qui sont intéressantes, mais ils vont broder, ils vont en faire plus que ce qu'ils ont vécu, mais toujours dans la limite de ce que l'autre va pouvoir accepter comme étant crédible.
Sans latin, finalement.
Ouais, un peu.
Et Jan Riel a vu le résultat.
Oui, alors ce qui était compliqué pour nous, c'est qu'en aimant l'œuvre de Riel et en sachant qu'il y avait des grands, grands fans de Riel, c'est on s'est dit bon, on adapte quelqu'un qui est vivant. Il va avoir un regard sur ce qu'on fait. On avait peur que ça ne lui plaise pas. Et normalement, c'était déjà dans les clous parce qu'il faisait confiance à son éditrice, à Susan Yule. Mais il y a quelques années, la première fois que je rencontre, c'était à une lecture de Dominique Pinon qui avait choisi quelques racontars à dire à haute voix à Paris. Et Yann Ril était là. Et on avait fait juste quelques planches. Et à la fin de cette rencontre, de ces lectures, bon, j'aime bien Dominique Pinon, mais je venais pas pour lui. J'allais voir vraiment Yann Ril. J'étais assez impressionné de le voir. Et je vois un petit bonhomme très, très dense, en fait, avec des yeux bleus perçants qui expriment pas forcément beaucoup. Et je viens limite tremblant avec les planches que Hervé avait réalisées. Et je lui montre, et puis il reste comme ça avec sa pipe. Et à un moment donné, j'ai vu ses yeux qui s'allumaient. Et à ce moment-là, j'ai vu que c'était gagné. Il a reconnu un personnage, il a fait Valfred, et puis ses yeux se sont allumés. Et là, j'ai su que les personnages lui plaisaient, qu'il les avait reconnus sans lire le français, etc. Et là, le petit bonhomme s'est réchauffé, en fait. Et tous ces contrastes de chaud et froid qui sont dans son œuvre, je les retrouvais juste en quelques secondes dans une rencontre en lui montrant ses planches.
Le Pacha disait à Voltaire, il fallait perdre ma tête ou la couvrir d'un turban. Alors ça nous amène à un autre récit qui n'a rien à voir, si ce n'est quand même la dimension extraordinaire, qui est celle de Bonneval Pacha.
Oui. En fait, il y a un très gros rapport avec les raconteurs. C'est la frontière entre le réel et l'imaginaire. Parce que Bonneval Pacha, en fait, c'est quelqu'un qui a existé dans ma famille au XVIIe et XVIIIe siècle, qui était un militaire, qui était une forte tête, qui s'est fâché réciproquement avec un ministre français. Il est passé chez les Autrichiens, il a fait une carrière extraordinaire là-bas. Ensuite, il s'est fâché avec les Autrichiens, il a dû fuir en Turquie, et puis il a dû effectivement se convertir à l'islam, parce que du coup il était protégé comme ça, sinon il était rendu aux Autrichiens et risquait de mourir. Et c'était un personnage qui était connu de son vivant, c'était une célébrité. Il a rencontré toutes les personnes importantes finalement qu'on connaît aujourd'hui, et finalement c'est devenu un personnage de seconde zone aujourd'hui, alors que c'était une célébrité à son époque. Il a finalement été promu à un avenir exceptionnel, c'est devenu un personnage de roman. Et à son époque, il y a des gens qui ont écrit sur lui et qui lui ont fait vivre des tas de choses complètement rocambolesques qu'il n'avait pas vécu réellement,
oui,
lui-même.
Fausse.
Voilà, et qui ont, ils ont fait croire que c'est lui qui c'est des fausses mémoires du Pacha, en fait. Et lui, il a réfuté ça. Finalement en pensant aussi que ce qu'il a vécu était plus intéressant que ce qui était dedans. Mais là où c'est plus ambigu, c'est que c'est quelqu'un qui parlait beaucoup et qui racontait sa vie. Et on voit des choses dans les fausses mémoires, des choses réelles et qui sont très proches de ce qu'il a raconté. Donc, c'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il a raconté des choses à des gens qui les ont reprises pour ces mémoires-là, qui les ont gonflées, qui les ont détournées, mais on ne peut pas dire qu'il a rien à voir avec ça. C'est comme pour les racontards, finalement.
C'est de la légende.
Ouais. C'est
Mais il y a une base.
Voilà, c'est comme dans L'homme qui tue à Liberty Valance.
Alors, d'ailleurs, cette notion de réalité, d'histoire, de fantasme, d'imaginaire. Il y a l'anecdote du tombeau qui est quand même assez croustillante.
Oui, oui. Parce qu'en fait, j'ai fait des recherches sur cet ancêtre ou pseudo-ancêtre qui m'ont amené dans son château dans le Limousin, mais aussi en Turquie, où en fait, il était enterré dans un teke de derviche tourneur dans lequel il y a un cimetière. Et quand je suis allé à Istanbul, je voulais absolument aller voir sa tombe. Je savais qu'elle existait encore. Mais la tombe, en fait, le cimetière était en rénovation et on ne pouvait plus entrer. Et moi, je me suis dit, j'ai pas fait tous ces kilomètres pour pas voir la tombe du Pacha. C'est pas possible. Et j'étais venu avec une reproduction d'une gravure de sa tombe, d'un dessin qui avait été fait à l'époque de son décès. Et j'ai insisté, la grille était fermée, j'ai insisté, j'ai demandé à parler, j'ai dit, bon, c'est quelqu'un de ma famille. Et ils ont fait venir la personne qui s'occupait de la rénovation et aussi le parce que c'est un musée, le directeur du musée. Et puis, quand ils ont vu ils ne comprenaient pas tout ce que je disais, mais je parle un anglais approximatif et eux, c'était le cas aussi. Mais bon, on a fini par se comprendre quand même. Et quand ils ont vu la gravure, ils ont reconnu la tombe du Pacha, puis je leur ai dit que c'était un ancêtre. Et puis là, ils ont été très étonnés quand je racontais cette histoire. Et ils m'ont dit, mais c'est le ciel qui vous envoie. Parce qu'en fait, on ne l'a pas encore rénové et on ne savait pas exactement comment la rénover. Et on va se servir de la gravure que vous nous avez apportée pour la rénover de la bonne façon. Et vous seriez venu quelques semaines plus tard, on n'aurait pas pu la rénover correctement. Donc il y a eu une sorte de synchronicité. Et là, j'ai eu l'impression effectivement de rejoindre un peu l'histoire du Pacha, la prolongeant de cette manière-là.
Toujours concernant la fiction, et pas n'importe laquelle, puisque c'est quand même un des premiers récits épiques humains, la saga de Gilgamesh, qui, pour des raisons qui ne lassent pas de m'étonner, n'a pas été adaptée en BD. D'ailleurs, très rarement au cinéma aussi. Bon, alors évidemment, on pourrait arguer que le récit est très très long, au même titre que des sagas islandaises ou autres, mais il y a quand même dedans de quoi faire. Il y a des personnages formidables, il y a des situations extraordinaires. Donc du coup, toi, tu t'y es attelé. D'où est venue cette idée de s'attaquer à un mythe aussi fondateur, mais aussi complexe? Parce qu'il y a un grand nombre de couches narratives, de significations, au-delà du simple, disons, récit épique.
En fait, ça venait de loin, parce que je lisais des livres de mon père assez ésotériques quand j'étais gamin. Et y a un moment où il parlait de Gilgamesh et d'Enkidu dans certains extraits. Et pareil, une douzaine d'années, je n'avais pas très bien compris à ce moment-là le récit. Je l'avais situé dans une sorte de Moyen-Âge. et j'avais fait quelques pages comme ça. Et puis, à un moment donné, quand j'ai voulu travailler avec mon ami Franz Duchazeau, et réciproquement, en fait, c'est plutôt lui qui m'a dit « J'aimerais bien qu'on travaille ensemble. » Et j'ai repensé... on parlait beaucoup d'antiquité, de mythologie, et puis de comment l'homme a vécu à certaines époques, dans certaines civilisations. Et c'était on voulait absolument s'attaquer à un récit mythologique et voir ce qu'il y avait à la fois d'immanent chez l'être humain et aussi il y a des différences assez fortes. Et c'était là aussi où résidait la difficulté d'adapter Gilgamesh, c'est qu'on est dans un autre monde totalement. Les mentalités de l'époque sont totalement différentes des nôtres. Et en même temps, il y a des choses qui résonnent en nous sur les questionnements, et effectivement encore sur l'immortalité, qui a un rapport aussi avec les derniers jours d'un immortel. Voilà, il y a des choses qui sont... L'homme a toujours essayé de repousser les frontières de la mort. Aujourd'hui, il y a encore Google qui s'interroge là-dessus, sur le fait de repousser, de tuer la mort, etc. En fait, il y a des choses qui nous traversent d'époque en époque qui sont immanentes chez nous. Du coup, j'ai commencé à relire des récits. Il faut savoir que à propos de Gilgamesh, il faut savoir qu'il y a eu des légendes au départ sumériennes, et puis plus tard, ça a été réuni quelques centaines d'années plus tard par un scribe qui en a fait une épopée. Et c'est la première épopée réelle qui existe, qui est construite en 12 tableaux. En grattant un petit peu, on se rend compte qu'il y a une... ça n'a pas été écrit n'importe comment. Il y a une symbolique très forte derrière. Et il y a quelqu'un qui m'a beaucoup influencé pour écrire Gilgamesh et dans le récit, c'est dans la construction du récit. C'est un monsieur qui s'appelle Forrest, comme le dessinateur. Parce que le frère de Forrest, de Jean-Claude Forrest, s'appelle Jean-Daniel Forrest. Et c'est quelqu'un qui connaît, qui est historien et qui connaît cette période par cœur et qui a écrit un livre sur la symbolique de Gilgamesh et sa postérité. Et qui montre à quel point Gilgamesh et la civilisation sumérienne ont influencé tout le bassin méditerranéen, ont influencé aussi en partie les Égyptiens, la Grèce antique, etc. Et Hercule vient de Gilgamesh totalement. Les 12 travaux d'Hercule et les 12 tablettes, enfin les 12 récits de Gilgamesh, ça vient directement de là. Il y a un récit de Gilgamesh qui a donné, avec Utnapishtim, qui a donné le récit de Noé et du déluge. Donc, quand on commence à gratter, on se rend compte que chez les Sumériens, il y avait déjà énormément de choses qui nous ont influencés derrière, mais on ne connaît pas très bien, en fait. Et je crois que j'aime bien ce qui est un petit peu. J'aime bien aller gratter ce qu'il y a derrière. On a un premier récit qui est. Nous, on est marqué par l'Antiquité grecque. Mais derrière, il y a autre chose qui a influencé l'Antiquité grecque.
De toute façon, il n'y a pas de génération spontanée.
Voilà, il n'y a pas de génération spontanée. Et donc, quand j'entends un récit, je m'interroge d'où il vient, en fait, ce récit-là. Est-ce qu'il n'y a pas encore autre chose derrière? Et nous, on a finalement notre limite, c'est les Sumériens. Mais les Sumériens viennent sans doute pas de rien non plus, etc. Et jusqu'où on va, je l'ignore. Il y a aussi les traces qui nous restent. Et on ne peut pas aller au-delà de ces traces.
Par contre, alors il y a le problème de la représentation, parce que la civilisation sumérienne est quand même ancienne, avec beaucoup de constructions en terre cuite.
C'est ça,
alors, ouais. Ce qui était assez logique dans un pays ensoleillé, mais enfin, ça reste quand même pas beaucoup autant. Il y a eu bien sûr des fouilles, on a mis à jour quand même des sites relativement bien conservés, mais de là à pouvoir s'appuyer sur des éléments finalement assez peu nombreux pour reconstituer tout un univers, alors que les cases dans une BD demandent énormément de documentation. Est-ce que ça a été un problème, ou est-ce que par le biais de la mise en scène, vous êtes débrouillé pour éviter d'avoir à trop représenter certains arrondissements, quartiers de ville, etc.
Alors, au niveau de la documentation, il y a cet aspect-là, mais il y a aussi le fait qu'il y a des tablettes qu'on n'a pas retrouvées. Donc il faut interpréter où il y a des manques dans les tablettes. On a d'ailleurs failli passer à côté de cette civilisation presque, parce qu'on trouvait des choses, mais on ne savait pas trop à quoi ça correspondait. Et il y a des auteurs, il y a eu pas mal de traductions, mais ils ne sont pas tous d'accord les uns avec les autres. Donc il a fallu nous frayer un chemin qui nous paraissait le plus crédible et aussi le plus intéressant à mettre en scène par rapport à notre propos. Moi, j'ai gardé des traductions un peu bizarroïde, c'est-à-dire que si on surinterprète trop, on pouvait perdre aussi une saveur d'une traduction étrange de quelque chose d'une époque, qui imprègne une époque. On savait dès le départ qu'on ne pourrait pas tout comprendre, pas tout interpréter, au risque de faire des écarts d'interprétation trop grands. Et de passer à côté de Gilgamesh.
En ramenant à nous.
En ramenant trop à nous.
Culture, oui.
Voilà. Alors, par le biais des traductions, forcément, c'est ramené à nous. Mais j'ai lu plusieurs bouquins, plusieurs traductions et plusieurs essais sur Gilgamesh pour me faire ma petite idée là-dessus. Et puis, parfois, je discutais avec Jean-Daniel Forrest pour savoir quel était son avis sur la question. Parce que je me fiais assez à son interprétation. C'était un parti pris, quoi. Et il y a des choses qui se recoupent et qui sont assez crédibles finalement, parce que il y a aussi les 12 mois de l'année, il y a un moment donné où Gilgamesh est en pleine possession de sa force et c'est au moment de où voilà c'est en fait il y a tout un travail sur les équinoxes et les solstices pour savoir quand les forces sont au maximum et quand ces forces faiblissent. Et là, c'est dans la construction du récit. Et par rapport à la documentation, pareil, il y a des gens qui affirment que c'était pas possible d'avoir des habitations à étages. Et l'autre qui disent, mais si, il y a l'épaisseur du mur, c'était évident que là, il y avait un étage, etc. Et bah, on s'est un peu débrouillé comme on pouvait. On a été les rencontrer aussi. Et moi, j'étais dans un atelier dans le 10e arrondissement de Paris. Jean-Daniel Forest était à 200 mètres. Et puis, il y en avait un autre qui était à 300 mètres de l'autre côté. Mais ils ne se supportaient pas vraiment l'un l'autre parce qu'il y en a un qui disait, il surinterprète trop, il est dans la symbolique. Moi, j'étais sur place, lui, c'est pas. Et puis, il y en a un qui était vraiment très terre à terre et qui ne voulait surtout pas extrapoler. Et il disait, bon, il y a des gens qui vont un peu trop loin, machin, pour ne pas le nommer. Et en gros, il nous faisait comprendre qu'il ne fallait pas trop aller de son côté et pas aller le voir. Et on avait rendez-vous avec celui-là même le lendemain, 200 mètres à côté de chez lui. Donc nous, on prenait note et puis on restait assez discret et on essayait de ne pas fâcher les uns et les autres. Et puis on a fait notre petite patouille avec tout ça, quoi. Et on sait très bien qu'il faut rendre un univers à peu près crédible pour le lecteur, mais que...
C'est pas un documentaire non plus.
C'est pas un documentaire non plus. Voilà.
Toujours dans la fiction, on a le Moyen-Âge et toutes les croyances ainsi que le système religieux, de superstition, avec donc Messire Guillaume. Là, comment est venue l'idée d'attaquer l'époque du Moyen-Âge, mais d'une façon qui n'est pas forcément celle classique par laquelle on a l'habitude de le voir.
Ah oui. pas classique, c'est-à-dire, par exemple.
c'est-à-dire que, bon, évidemment, en termes de symbolique, de monde, de magie, etc., on peut toujours avoir la geste arthurienne. On a tendance à l'utiliser peut-être davantage comme époque historique, mais à laisser de côté tout ce qui est croyance, en tout cas ne pas forcément toujours mélanger les deux.
Oui, d'accord. Et surtout dans des récits de fiction. Parce que, en fait, quand un sujet m'intéresse et que je me dis que j'aimerais en faire un projet, parfois je me lance dans des choses et je lis des tas de bouquins, et finalement ça ne fait pas de projet, mais en fait, il y a un temps d'immersion et de recherche qui est beaucoup plus long que l'écriture elle-même, finalement. Et la bande dessinée, elle me sert d'abord à apprendre des choses. Et le Moyen-Âge marquait beaucoup Mathieu Bonhomme et moi-même. Et pareil, on avait envie de travailler ensemble. Et sur le fond et sur la symbolique, il m'a fait confiance. Moi, je trouvais dommage, effectivement, qu'on ne parle pas du Moyen-Âge. Enfin, qu'on parle du Moyen-Âge sous un aspect uniquement chevaleresque ou un peu par des poncifs, finalement. Alors, les poncifs sont là, ils sont intéressants quand il y a des archétypes. Il y a des choses dont on peut difficilement se passer, mais en rester là, finalement, l'archétype s'appauvrit, ça devient un cliché. Et alors que l'archétype, je pense qu'il peut accueillir quelque chose de c'est une forme qui peut accueillir quelque chose qui est justement immanent et peut traverser les siècles, les générations. Peut-être que c'est un point commun dans ce que je fais d'ailleurs, de dire, quelles que soient les époques, ça m'intéresse de savoir comment les gens vivaient à cette époque, et il faut respecter la civilisation et l'époque. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui fait que on est un être humain à cette époque ou à l'autre ou dans tel pays? Et donc la recherche pour le Moyen-Âge, c'était la même. Dans quel substrat culturel ils baignaient, comment était leur représentation du monde. Il y a un moment donné où les routes vers l'Orient se sont réouvertes avec les routes de l'épice et vers l'Inde, etc. Mais pendant un moment, le Moyen-Âge avait comme source des livres qui parlaient, qui étaient issus de l'Antiquité, en fait. Donc on avait toute une représentation du monde et des maps mondes qui étaient issus d'un imaginaire ancien grec. Et du coup, bah, y a par exemple le roman d'Alexandre le Grand, c'est un succès gigantesque au Moyen-Âge. Mmh. Et il rencontre des êtres, des acéphales, des créatures merveilleuses, etc. Et donc, ça, le Moyen-Âge en est baigné. Et pour moi, c'était important que l'imaginaire du Moyen-Âge soit présent dans Messire Guillaume. Et de l'autre côté, on a essayé d'être assez réaliste sur leur mode de vie aussi. Que les deux dimensions ne soient pas oubliées.
Alors justement, le Moyen-Âge, c'est quand même 1000 ans d'histoire. Et c'est là où très souvent, d'ailleurs, on a tendance à simplifier cette époque et à la considérer sous un seul angle, alors qu'en fait, c'est tout de même un millier d'années qui ne se ressemblent pas. Ça va des premiers siècles jusqu'à la... juste avant la Renaissance. Toi, tu avais choisi quelle époque pour Messire Guillaume ?
Nous, on n'a pas voulu mettre de date, mais on visait le début du XIIIe siècle. Mm. Pour essayer d'avoir une sorte de cohérence. On ne voulait pas être enfermé dans une date, mais on voulait être cohérent par rapport à là où on situait le récit.
Bon. C'est bien le XIVe, c'était déjà un peu moins sympa après.
Oui.
Alors, toujours sur le système des forces aussi qui nous environnent, notamment celles de la nature. Il y a la bande, c'est-à-dire en fait les albums de Varulf dessinés par Hugo Piet. Là, on est dans un récit qui met en jeu des forces animales qui mettent en danger la vie de villageois, soit en faisant pourrir de toute façon leur récolte, soit en allant leur chatouiller les doigts de pied pendant la nuit. Alors, c'est le graphisme qu'il a est peut-être surprenant parce qu'il est extrêmement simple, finalement, une école, j'irais dire, entre guillemets, poisson pilote, mais avec d'ailleurs de très très bonnes couleurs. Et de prime abord, on ne pourrait pas imaginer que ce soit le graphisme le plus adapté pour une histoire qui est beaucoup plus dure qu'on pourrait l'imaginer de prime abord.
Oui, alors en fait, dans le fond, il y a pas mal de rapports avec Messire Guillaume parce que... Mais le choix du graphisme fait que ça donne quelque chose de totalement différent. C'est-à-dire que ce qui m'a intéressé, c'était les croyances avant l'arrivée du christianisme. C'est-à-dire que la plupart des gens pensaient qu'on avait au-delà de notre propre corps, on avait des doubles, qu'on pouvait avoir un pouvoir de dédoublement. Et on retrouve ça beaucoup chez les Scandinaves parce qu'on a des traces plus proches parce qu'ils ont été christianisés plus tard. Et donc, même quand le christianisme arrive et récupère des récits païens, ils mettent une sorte de vernis et de déguisement qu'on peut un peu gratter. Et puis, on se rend compte que derrière, ça correspond à telle ou telle croyance. Et il y a deux auteurs absolument extraordinaires, c'est Régis Boyer et Claude Lecouteux, qui ont parlé du monde du double et de toutes ces croyances-là. Et déjà, dans Messire Guillaume, il y a un double animal zoomorphe qui peut se projeter et aller visiter les gens la nuit. D'ailleurs, cette croyance-là, on la retrouve. Le cauchemar, c'est ça, c'est la mare, la sorcière, qui vient cocher la nuit, se mettre sur la poitrine. Et ça ressemble aux croyances antiques des incubes et des succubes aussi. On peut même, si on extrapole, imaginer que les abductions, enfin pas les abductions, les enlèvements par les extraterrestres sont peut-être le même délire, peut-être physiologique. Si ça se trouve, il y a quelque chose de physiologique. On parle de paralysie du sommeil. On a l'impression quand on est endormi, qu'on est réveillé et qu'il y a des gens qui ont cette sensation-là. Et ça s'explique physiologiquement. Et qu'ils sont visités, ils sont touchés, ils sont paralysés, ils peuvent rien faire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Mais j'extrapole. En tout cas, effectivement, sur ces croyances-là du monde du double, on retrouve ça. J'avais envie de l'approfondir avec Varulf, avec une bande d'enfants qui sont dans un village dans lequel il y a des meurtres qui sont commis la nuit par des animaux. Et ils vont se rendre compte que c'est peut-être leur double qui crée ses propres meurtres à leur insu. Et c'est ça le début de l'histoire. Et donc il y a aussi à la fois une envie d'explorer les croyances de cette époque, mais il y a aussi toutes les pulsions qu'on a quand on est adolescent, qu'on peut retrouver aussi dans ce récit-là, mais que, du coup, que j'ai pris un peu au pied de la lettre, avec le fait de plus ou moins consciemment d'aller tuer sa propre famille. Mais c'est peut-être pas ça. Si vous lisez l'histoire, c'est peut-être pas ça.
Avant de passer à la BD numérique, parce que ça, c'est quelque chose dont il faut vraiment qu'on parle, on va terminer le tour des BD, même s'il est incomplet, par Adam et Ève. Pourquoi ? Parce que alors là, on est peut-être dans un cas un peu plus particulier, dans le sens où on est beaucoup moins dans un univers fictionnel. Enfin, ce serait plutôt le personnage qui le serait, vu qu'il est prêt à fabuler de manière invraisemblable pour attirer les faveurs d'une Juliette. Mais en même temps, tout le reste de la bande est plutôt de l'ordre de la comédie douce amère, pour reprendre une expression contemporaine, assez lente, très ordinaire finalement. En tout cas, il n'y a rien de spectaculaire dedans. Donc on est dans un autre registre.
Oui. C'est vrai qu'il est un petit peu à part. Quand j'ai abordé le contemporain, c'était plutôt pour la jeunesse et c'était plutôt humoristique avec Basile Bonjour, donc ça avait effectivement pas de rapport direct. Ce qui m'intéresse, c'est de pas me avoir l'impression de répéter ou de faire quelque chose que je saurais déjà faire, comme éviter d'être un singe savant, en fait, de se dire ben voilà, je commence à maîtriser un petit peu ce sujet, cette thématique, et j'ai pas du tout envie d'en devenir un spécialiste et d'être enfermé dedans. Et à un moment donné, j'ai eu envie de faire un contre-pied assez fort avec ce que j'avais fait avant. Mais tu as raison, le point en commun, c'est qu'il y a un personnage qui s'invente qui tout d'un coup dérape un petit peu. Il sent qu'il rencontre quelqu'un qui est important pour lui dans sa vie, qui va peut-être en tomber amoureux, et que il vient d'avoir une histoire qui était très forte. Il pense ne plus être capable de revivre une histoire d'amour. Et finalement, il va tester cette histoire d'amour en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que il prend un pseudo, il raconte à la femme qu'il a rencontrée qu'il est quelqu'un qu'il a vu dans la rue, dont il a réussi à retrouver la trace, qu'il a envie de la connaître, etc. Et donc, il va rentrer en fait, le personnage d'Adam s'est créé un rival avec lequel il va rentrer en conflit d'une certaine manière. Et il essaye de voir si Juliette va lui parler de ce personnage-là. Il va tester sa confiance. Et il prend aussi le parti de tout perdre.
C'est risqué. Hein.
C'est très risqué. Mais je crois qu'il a tellement peur de rentrer dans une nouvelle histoire d'amour qu'il préfère prendre un énorme risque, quitte à se dire finalement, ça ne marche pas et c'est comme une prophétie autoréalisatrice. Et puis, finalement, si ça marche, c'est que c'était vraiment elle. Donc finalement, à la fois, il est manipulateur, mais c'est un grand romantique aussi. J'ai un petit regret sur cette bande dessinée, c'est que en la relisant, je trouvais qu'on avait du mal à s'attacher au personnage principal, alors que ça aurait été bien qu'on soit plus touché par lui pour rentrer dans sa problématique. Voilà.
On va passer au professeur Cyclope, une expérience assez remarquable qui, pour moi, n'a pas d'équivalent. Qui s'est achevé il y a un an, qui avait pour but de donner un support pour de nouvelles narrations de BD, mais numériques, construites principalement pour être visionnées sur des tablettes, et utilisant de différents systèmes narratifs que Gwen va développer. Il ne s'agissait pas seulement de modifier la diffusion de la BD, mais d'enrichir le média même.
Oui. En fait, c'est une problématique, c'est une équation à beaucoup d'inconnus. Il se trouve que la bande dessinée numérique, il y a, y a, il y a quelques années. Là, il y a un peu plus d'expérience, mais quoique pas tant que ça, finalement. C'est des expériences un petit peu isolées. Mais il y a eu un conflit, pour resituer ça, entre les éditeurs et les auteurs sur les contrats par rapport au numérique. Et tout le monde a eu un peu peur de ce que le numérique allait devenir ou pas devenir, et que voilà, il y ait des enjeux juridico-financiers, etc. Donc pour le faire vite, il y a une bande d'auteurs de bande dessinée, Fabien Vellman, Cyril Pedrosa, Bruno, Hervé Tancrel et moi, qui avons décidé de prendre le sujet à bras le corps et puis de se dire on va faire les choses par l'exemple, en fait. On va dire, on va réfléchir à la diffusion, mais on va réfléchir à la narration. La bande dessinée numérique, ça ne doit pas être qu'une bande dessinée numérisée. Faire de la bande dessinée sur papier ou la faire sur écran, c'est pas la même chose. Donc réfléchissons à comment la bande dessinée sur écran pourrait être intéressante, excitante, sans que ce soit une bande dessinée classique qu'on fait scroller à la verticale sur un écran. Mais on ne voulait pas faire ça sans modèle économique. On s'est dit que s'il fallait aller explorer des terrains incognita, il n'y avait que les auteurs qui pouvaient y aller de cette manière-là, parce que les auteurs qui pouvaient y aller comme ça, parce que les éditeurs nous disaient on ira quand ce sera mûr. Mais alors, pour faire mûrir la narration numérique sans commencer du tout à mettre le petit orteil dedans, ça risque de jamais mûrir, ça ne risque de jamais exister. Donc on n'a pas attendu qu'ils y aillent. En revanche, il fallait trouver un modèle économique qui permette aux auteurs de faire des récits pour lesquels ils étaient payés, ils prenaient du temps sur leur travail pour le faire, et sinon on n'allait jamais y arriver. Donc on a monté tout un modèle économique entre les abonnements, de la coproduction avec Arte, et puis aussi une coproduction papier, c'est-à-dire qu'il y a des récits qui ne verraient jamais le jour en papier et d'autres qui pourraient être bimédia. C'était le cas, par exemple, du Sourire de Rose de Sacha Gerg. Et puis, en fait, on a fait une revue mensuelle dans laquelle il y avait des expérimentations numériques qui étaient un peu poussées et d'autres qui étaient plus classiques. C'est simplement des planches de bande dessinée, mais c'était à la marge. Parfois, ça équilibrait notre revue parce qu'on se disait, tiens, on n'a pas ce genre-là. Ce récit nous intéresse. On peut soit le pré-publier, et ça vient d'un autre éditeur, soit on fait en avance, en amont, un contrat avec Casterman et avec Professeur Cyclope d'un récit qui sera diffusé chez Professeur Cyclope et ensuite dans le label Professeur Cyclope de Casterman. Donc on avait on a construit un modèle économique sur plusieurs pieds parce qu'on savait qu'il y en a... Les abonnements ne suffiraient pas, la coproduction ne suffirait pas. Enfin voilà, il fallait marcher sur plusieurs pieds. Il se trouve que à cette époque-là, beaucoup de gens voulaient se lancer dans la bande dessinée numérique, et finalement on a été un peu isolés. Et ce qui aurait été bien, c'est de créer une tendance de la bande dessinée numérique dont nous on serait un volet avec notre sensibilité, avec notre direction artistique, et on n'a jamais eu la prétention de représenter tout ce qui était la bande dessinée numérique. Et d'ailleurs, on n'aurait pas pu tenir 2 ans de diffusion en publiant des choses dont on n'aimait pas les contenus. Ça paraissait absurde. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu misé sur le fait de créer des usages parce que plusieurs personnes iraient. C'est-à-dire que les revues papier en bande dessinée, elles ont aussi marché parce qu'il y avait des concurrents, parce que les lecteurs se retrouvaient plutôt dans tel ou tel type de récit, que ce soit Tintin, Spirou, Pif, chacun pouvait trouver son compte. Bon, moi, j'aime un peu tous, mais et d'autres aimaient tous aussi.
Mais, l'avenir de la BD en numérique, tu le vois comment d'ailleurs? Est-ce que tu penses que aussi le numérique pourrait permettre, en tout cas aider à la BD de sortir de la crise qu'elle traverse à l'heure actuelle?
Nous, c'est ce qu'on a un petit peu essayé de faire, mais en réalité, j'ai l'impression qu'on patine un peu. Notre grande fierté, c'est quand même d'avoir réussi à faire vivre des gens pendant 2 ans deux bandes dessinées numériques. En fait, ça n'existe pas. Actuellement, on n'a pas trouvé le modèle pour ça. Et ce qui résiste le plus, et c'est tant mieux, Parce que nous, on ne s'est jamais opposé à la bande dessinée papier. C'est, pour l'instant, le livre papier continue d'exister, d'être relativement solide. Après, la condition des auteurs, c'est un autre sujet. Mais il y a encore un marché pour la bande dessinée du livre papier. Alors, ce qui est étonnant, c'est que quand on essaye d'explorer de nouvelles voies, on est vite accusé de ne pas aimer la voie principale. Alors qu'en fait, c'est une évolution, c'est une autre manière de faire de la bande dessinée qui ne contredit pas ce qui a précédemment existé. La bande dessinée, c'est un art hybride depuis toujours. Elle prend des formes différentes, elle se réinvente. Les supports et les contraintes la font évoluer. Jusqu'à ce qu'on puisse dire qu'il y a des frontières et que là, on est dans la bande dessinée et là, on n'est plus dans la bande dessinée. C'est possible. Mais il y a un moment donné où la bande dessinée est devenue la bande dessinée parce qu'elle s'est échappée de l'illustration, parce qu'elle s'est échappée de d'autres formes artistiques qui lui préexistaient. Donc on peut inventer de nouvelles voies. Et je pense que c'est le rôle de l'auteur. Maintenant, il faut un accompagnement et un imaginaire aussi de la part de l'éditeur et donc une volonté presque politique de faire exister des nouvelles formes, parce que s'il n'y a que des gens comme nous qui nous y mettons, à un moment donné, on s'épuise parce qu'on est un peu les seuls à faire et qu'on a une vie d'auteur aussi à avoir. Et il y a pas mal de gens qui nous ont dit « on ne vous voit plus trop faire de bouquins ». Oui, on est éditeur, on est chef d'entreprise, on essaye de faire bouger la bande dessinée numérique, et puis on peut absolument pas tout faire, voilà.
Alors justement, et pour terminer, concernant le rôle de l'auteur-éditeur, les aides que l'on peut apporter à un auteur, ne serait-ce que par de la résidence, les ateliers d'initiation à la bande dessinée pour les enfants, en tout cas à la familiarisation de cet art, la maison Fumetti vient d'ouvrir à Nantes. Est-ce que, alors tu fais partie du directoire.
Oui, c'est ça, voilà, du triumvirat. Voilà. Ouais, on est trois coprésidents avec Cyril Pedrosa, Tanguy Jossic et moi-même. Et le projet a été pensé en amont la maison d'édition Vite Cocagne et ses représentants qui ont eu l'idée en se rendant compte de la. Ouais, des forces vives de la bande dessinée nantaise, que il fallait faire quelque chose autour de ces auteurs, déjà les faire se rencontrer, montrer au public nantais les auteurs dont ils ignoraient parfois l'existence, ou quand ils connaissaient Cyril Pedrosa, par exemple, ils ne savaient pas forcément qu'il habitait à Nantes, ou voilà. Il y a un moment donné, on s'est dit, eux se sont dit ça et ils ont commencé après à en parler autour d'eux. Et on est quelques-uns à avoir pris un peu le train assez vite en route pour proposer à la fois au public nantais de montrer ce que c'était que la bande dessinée nantaise et aussi être ressource pour les auteurs, les faire se rencontrer. Et pour ça, on avait besoin d'un lieu. Il suffisait pas d'avoir quelque chose d'un site ou quelque chose de virtuel ou simplement un bureau excentré. Il fallait un lieu qui incarnait ces rencontres possibles, dans lesquelles on pouvait faire justement des rencontres avec des auteurs, des ateliers, des cours, des stages, et aussi faire un atelier pour les auteurs nantais qu'on met à disposition. Et voilà, il nous fallait tout ça. Et il se trouve que la municipalité de Nantes nous a suivis très tôt. Et on a fini par trouver un lieu. La mairie nous a proposé un lieu qui est la manufacture des tabacs, qui est la bibliothèque de la manufacture, qu'on partage avec la bibliothèque. Il y a une partie qui est pour eux, qui reste la bibliothèque de la manufacture. Et il y a une partie pour Maison Fumetti. Donc là, c'est très récent, l'ouverture. Ça a eu lieu le 2 septembre. On a été ravis parce qu'on a fait une grande exposition qui s'appelait le Grand BDCDR, qui était un panorama contemporain de la bande dessinée nantaise. Alors, il n'était pas exhaustif, mais on a représenté un peu tous les genres possibles de la bande dessinée. Et là, il y a eu, le soir même, environ 2000 personnes qui sont venues nous voir. Et des gens du quartier, des gens qui s'intéressaient à la bande dessinée, à l'art. Donc pour nous, c'était un très beau début et une belle réussite pour Maison Fumetti.
Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette table ronde rencontre. Il est l'heure, donc malheureusement pas de temps non plus pour les questions. Merci encore d'être venu.
Merci.